Good evening, vous êtes sur Amuse Gueule, la radio des francophones et des francophiles d'Auckland et du monde entier, puisqu'on peut nous écouter sur Internet en fait, hein, puisqu'on est on télécharge bien gentiment les émissions et vous pouvez les écouter tout au long de l'année. Aujourd'hui, alors une émission, le mois de mars, alors non, déjà je présente, pardon. Anne-Sophie à la technique.
Bonsoir.
Je fais tout à l'envers. Virginie qui va nous parler du...
Bonsoir.
Voilà, du film, du Auckland Film Festival. Et Svi et Sian qui sont là en spectateur.
Bonsoir.
Ou plutôt.
Bonsoir.
En auditeur libre. Donc, je disais le mois de mars. En fait, le mois de mars, c'est un mois pour nous qui va être intense puisque c'est le mois des festivals, en tout cas de deux festivals très importants. Le festival du film français qui est organisé par l'Alliance française et dont Virginie va nous parler aujourd'hui.
Tout à fait.
Voilà, donc c'est le moment de l'année où tous les Français se ruent sur au Rialto et au Berkeley à Takapuna pour, en tout cas, ceux d'Auckland pour voir enfin des films français. Et puis le Auckland Art Festival qui nous réserve cette année des surprises par paquet. Il y a que du beau, il y a que du bon. Et donc je me disais le mois de mars, ça va me ruiner. Voilà, je vais plus avoir d'argent à la fin du mois de mars, je le sais déjà. J'ai commencé à réserver des choses et voilà. Donc on va d'abord commencer. On commencera un petit peu après la musique avec Virginie. Qui va nous parler donc du film. Tu mets quoi comme musique aujourd'hui, Anne-Sophie? Pardon, j'ai un peu de mal, là, je suis un peu rouillée, là, j'ai un peu de mal.
On va démarrer avec Aurel San, qui, jeune artiste que je ne connaissais pas, qui vient de faire la une des Arts Occuptibles, le magazine, il y a deux semaines, que je n'ai pas encore lu, mais du coup, j'ai découvert sa musique sur Spotify et je vais vous passer Tout va bien.
Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien.
Alors, tout va bien?
Écoute, tout va très bien.
Il me rappelle quelqu'un.
Il te rappelle qui? Tout va bien.
Pas un ami, mais plus un chanteur, mais je sais plus qui.
Il a vraiment cette espèce de...
Mais il a pas un peu la voix du Belge, là, comment il s'appelle
Du Belge,
ah,
le
oui,
Belge.
Comment il s'appelle?
Zui, comment il s'appelle, le Belge?
Le Belge.
Déjà, vous écoutez tout le temps, là.
Ah, puis, Stromae.
Voilà.
Oui, il a un peu de ça dans son style.
C'est vrai.
Mais d'ailleurs, je trouve que les époques, les chanteurs ont tous en général les mêmes... Il y a des vagues de style, en fait.
Absolument, oui. Ouais. Et le truc avec Stromae, je trouve assez intéressant, c'est... Il est devenu assez international. Alors, j'ai des amis des États-Unis qui m'en parlent. Ouais. Et je trouve ça très intéressant que quelqu'un comme Stromae, que moi je connais à peine, ouais. Et qui, enfin, ça m'a pas perturbé plus que ça et qu'il soit devenu aussi international, ça m'a assez surpris.
Ouais, je trouve qu'il est super.
Vous connaissez sa chanson Régler les comptes, sa chanson sur les règles et les engueulades entre hommes et femmes.
C'est là où il habillait moitié homme, moitié femme.
Oui, ils ont les règles. Ouais. Eh ben, Westfield Shopping Center l'a utilisé pour une pub là ces derniers mois où les gens font la fête et tout. Et alors quand on entend les paroles et qu'on est français et qu'on comprend, ça fait mais un gros décalage. C'est ahurissant. J'étais mortifiée dans le cinéma en me disant oh là mais là ils sont plantés, vraiment plantés.
Je demandais la traduction avant. Ouais.
Ah oui. Quand vous aimez une chanson française, je vérifie ce que les mots veulent dire.
Alors donc, en parlant donc de français, puisqu'on est souvent là pour en parler, le festival du film français, c'est ce mois-ci. Ça commence le combien, Virginie ?
Ça commence, alors ça dépend, hein, c'est un peu partout, c'est différent un peu partout. À Auckland, ce sera du 1er au 21 mars.
D'accord, et donc c'est principalement deux cinémas ?
Oui, alors Rialto Cinéma Newmarket, et alors il y a une petite différence au niveau des dates. Auckland Rialto du 1er au 21 mars, et Berkeley Cinéma du 2 au 21 mars.
D'accord, et Berkeley Cinéma, c'est à Takapuna.
Donc le festival est organisé par la Science française, et il fête ses 12 ans cette année. Et cette année, 37 films sont à l'affiche ou au programme sur 13 villes au total en Nouvelle-Zélande. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Ça commence donc le 1er mars au 18 avril. Là, je parle des dates au niveau de la Nouvelle-Zélande, tout le pays. Ouais. Donc je disais Auckland, 1er, 21 mars, et Rialto, Berkeley, voilà.
Ça va dans quelle autre ville alors de Nouvelle-Zélande ? J'imagine qu'il y a Christchurch et Wellington.
Mais ça va
Wellington.
Un peu partout, c'est assez intéressant. Ça va à Wellington, Christchurch, mais il y a d'autres petites villes. On reviendra tout à l'heure sur les villes, mais il y a quand même pas mal de villes qui sont...
C'est bien, ça veut dire que ça fonctionne bien. Mais bon, il faut dire que c'est une vitrine du cinéma français. Nous, on parle de la communauté française qui va voir ces films. Et comme c'est sous-titré, bien entendu, tous les anglophones qui sont francophiles ou même qui aiment bien le cinéma, c'est un super moyen de découvrir des films français.
Alors oui, effectivement, l'année dernière, 2017, 37 000 spectateurs. Donc c'est quand même pas mal de spectateurs pour un petit pays comme la Nouvelle-Zélande. Ouais, très, très populaire. Donc les thèmes de cette année, les femmes. J'aurais tendance à dire du cinéma, mais c'est pas vraiment du cinéma dans ce sens-là. C'est de faire des portraits en fait, et aussi de faire des beaux portraits d'actrices, je pense, plutôt que de personnes, seulement de personnes. Donc voilà, les femmes du cinéma, réalisatrices et actrices, pardon. Pas mal de biographies aussi de vie d'artistes, mais là on parle de peintres. Et puis des films pour commémorer, donc c'est la fin de la commémoration de la Deuxième Guerre mondiale.
D'accord.
Donc quelques films aussi à sujet. Donc en première, il y aura un film dont j'ai pas vu, mais en tout cas j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air d'être très très bien. Ça s'appelle Le sens de la vie, c'est une comédie.
Ah oui, ça y est, j'ai déjà réservé.
T'as déjà réservé, ça a l'air très très marrant. Enfin, ça a l'air marrant, mais pas marrant lourd. Ça a l'air assez sympa. Jean-Pierre Bacri,
oui.
Qu'on ne présente plus, hein, Cuisine et dépendance, Le goût des autres, Un air de famille, tout ça. Donc il joue le rôle d'un restaurateur qui organise un mariage dans un château du 17e siècle. Et puis ça part un peu en vrille, et puis c'est un peu les anecdotes la loi des séries et les choses qui ne se passent pas comme prévu. Donc les directeurs de ce film, c'est les mêmes que
les réalisateurs,
donc Intouchables. Donc c'est pour ceux qu'on vient. Enfin moi j'ai beaucoup aimé Intouchables, m'a fait rire.
Oui.
Je pense que c'est un des films récents qui m'ont fait énormément rire. Donc je disais, j'ai pas vu, mais j'ai vu la bande-annonce et ça s'annonce effectivement très très bien. Donc si vous voulez aller le voir, ce sera le premier film qui sera diffusé donc en première. Et puis la cérémonie de clôture, alors il y a 37 films, hein, je vais vous parler un petit peu de films que moi j'ai vus ou que je recommande, parce que c'est pas forcément des films nouveaux, c'est des films qui ont déjà, pour certains qui sont toujours à l'affiche ou plus à l'affiche en France.
Il y en a un que j'ai vu aussi, on en parlera au festival du film international d'Auckland aussi.
Il y a quelques films français qui mettent à ce moment-là. Et donc, cérémonie de clôture, pareil, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, j'ai vu la bande-annonce et ça a un ton un peu particulier. c'est un ton un peu décalé, donc je vous recommande d'aller voir la bande-annonce si vous ne l'avez pas vue. Donc c'est Madame Hyde.
Ah oui, ça a l'air super aussi.
Isabelle Huppert, José Garcia, donc pour ceux qui ne se rappellent pas La vérité si je mens, et puis Romain Duris, ben, l'auberge espagnole, hein, grand classique. Romain Duris, il joue le rôle du directeur de l'école, et Isabelle Huppert, elle joue le rôle d'un professeur qui, un soir ou une nuit, en tout cas en faisant des recherches, se fait électrocuter par un orage. Et donc sa personnalité change, elle devient d'une femme aigrie à une femme assez joyeuse, et ça change un peu sa vie. Mais le ton est assez décalé. Alors je pense que c'est de l'humour décalé. Je pense que ça, ouais, c'est assez sympa, mais c'est décalé. Puis je pense qu'Isabelle Huppert, elle est assez, comment dire, elle est...
Caustique, sèche.
C'est ça, caustique. C'est exactement le... J'étais sur sèche, mais caustique, c'est exactement le bon mot. Et donc c'est vraiment de l'humour, l'humour un peu parallèle, ouais. Donc ce que j'ai vu, ou celui que j'ai vu en tout cas, que je recommande, c'est L'amant double. Vous l'avez vu ?
Ah non, non.
Ouais. Avec le beau Jérémy Régnier, qui a fait le film. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne connaissent pas Jérémy Régnier, il est belge d'ailleurs. Il est de Bruxelles, donc il a fait Clo-Clo et Yves Saint-Laurent.
Ah oui.
Ah bah ça y est. Okay,
il joue pas Yves Saint Laurent, il joue le partenaire d'Yves Saint Laurent qui s'appelle.
Non, le partenaire d'Yves Saint Laurent c'est Guillaume Gallienne.
Ouais, mais il y a plusieurs films.
Ah ok, d'accord.
Sur Yves Saint Laurent et il joue son partenaire. Enfin bref. Et donc il est très très bon acteur et il est vraiment beau.
Tu l'as déjà dit, Virginie.
Ah, ça fait deux fois qu'elle dit. Elle a des étoiles dans les yeux. Hein.
Et vraiment.
C'est vraiment faire la photo pour Facebook.
Jérémy, si tu nous écoutes. Et c'est un.
Jérémy, si tu nous écoutes.
Jérémy, si tu nous écoutes.
Virginie aimerait bien te rencontrer.
Si tu veux venir parler à la radio.
Découvrir la Nouvelle-Zélande.
C'est un peu loin, mais on s'organisera. Donc c'est un thriller psychologique érotique.
Oh là, oui.
Et donc l'histoire, en gros, c'est donc une femme qui s'appelle Chloé, je sais plus l'actrice. Qui,
oui, bah, elle est pas aussi belle que lui, c'est pour ça.
Complètement ignorée, sans intérêt. Et donc elle va voir Jérémy Régnier parce qu'elle a des douleurs de ventre et il pense, en tout cas son médecin lui dit non mais c'est psychologique. Donc elle va voir un psychologue. Puis finalement elle a une relation avec ce psychologue, elle vit avec lui et puis elle réalise que cet homme a un frère jumeau qui lui aussi, je ne sais plus s'il est psychologue ou psychiatre, mais il a en tout cas des techniques un peu alternatives et c'est là où donc ça devient un thriller érotique.
Ouais.
Alors en fait j'ai aimé parce que c'est bizarre, mais c'est vrai qu'à la fin du film j'étais pas vraiment sûre de ce qui s'était vraiment passé, ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Ce qui avait été finalement dans sa tête, c'est vraiment ce qui s'était passé. Donc, je ne sais pas si vous aurez le même,
la même expérience que moi. C'est fait pour perdre, pour te perdre en fait quand tu regardes le film. D'accord.
Et donc, quand j'ai fini de regarder ce film, c'est vrai que j'étais vraiment pas très très sûre de ce que j'avais regardé, mais en tout cas, il est très très intéressant. C'est un film sympa.
En plus, comme c'est des jumeaux, tu pouvais le voir deux fois plus,
c'est
l'acteur.
C'est ça, bah, t'as tout compris. Voilà. Donc, puis je l'ai regardé une deuxième fois.
Oui, oh, d'accord, ça fait quatre.
Okay. Sinon, en termes de films, donc il y a, donc je disais justement des biographies, donc c'était un des thèmes de cette année. Donc Gauguin, Voyage de Tahiti, Paul Gauguin... le peintre, qui est joué par Vincent Cassel, Rodin, qui est joué par Vincent Lindon. C'est un film assez...
Tu l'as vu ?
Non, je ne l'ai pas vu, mais ce n'est pas un film récent. Hein. Rodin, en tout cas, ce n'est pas un film récent. Je pense que ça doit avoir quelques années déjà. Et Barbara, qui sont à l'affiche. Barbara, ce n'est pas l'histoire de sa vie. C'est une histoire un peu alternative. C'est
une actrice qui doit jouer sa vie, c'est ça, non ?
Ce n'est pas une pianiste ou quelque chose comme ça ?
Il me semble que c'est une actrice...
C'est possible. Qui doit faire l'histoire de sa vie et qui se retrouve connectée avec Barbara et ses chansons, etc.
Et c'est Jeanne Balibar qui est une super actrice, moi, que j'aime beaucoup. Et qui, pour cette occasion-là, je trouve, lui ressemble vachement à Barbara. Quoi. C'est bien, bien vu.
Bah, c'est un peu comme justement Jérémy Régnier et Clo-Clo.
Oui.
Oh là 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 là.
Ouais, mais
complètement fou. Hein.
Ah oui, bah ouais, mais bon, il vit loin et puis, puis je ne suis pas disponible.
Voilà, il y a ça aussi.
Donc sinon, il y a beaucoup de films très bien. Donc il y a numéro 1, c'est un autre film qui est joué par Emmanuel DeVos, pardon. Donc je disais les portraits de femmes. Donc là, c'est le portrait d'une femme qui vit dans une entreprise, et puis elle est promue, elle est assez... elle réussit dans sa vie professionnelle, elle prend des responsabilités, plus de responsabilités, et puis elle doit gérer finalement le rejet à la fois des femmes qui sont jalouses et les hommes, et le sexisme dans ce milieu professionnel. Donc, ce que c'est, en fait, c'est le portrait d'une femme qui doit se battre pour être.
Pour avoir un poste de pouvoir.
Voilà,
en fait.
Pour avoir des responsabilités. Il y a un autre film, donc c'est Les Hommes du Feu, donc ça, c'est le portrait d'une femme qui gère des pompiers. Au milieu d'un été très chaud dans le sud de la France, et pareil, donc le rejet de ses collègues qui n'acceptent pas donc qu'elle soit dans ce rôle. Et puis un autre film qui est Chez nous, et là c'est plus le portrait d'une femme dans le milieu politique, où ils essayent de mettre en avant cette femme qui est une infirmière, et d'avoir en fait qu'elle devienne la représentante de ce parti politique qui, alors je pense pas, c'est pas noté comme un parti politique que nous connaissons, mais en tout cas, ça a l'air d'être un parti politique assez extrême. Donc,
oui, vu comme elle est un peu blonde avec une coupe au carré.
J'ai lu le résumé de ce film. Oui.
Voilà, mais c'est pas spécifiquement
chez nous
présenté comme ça. Mmh. Voilà, chez nous. Donc voilà, de très beaux portraits de femmes.
Il y a aussi là, je t'interromps, la Montparnasse Bienvenue. Là,
oui, c'est vrai.
Ah, tu allais le dire ou t'allais
en parler? Non, vas-y.
Oui. Donc elle a 31 ans, elle est un peu paumée. Et, bon, j'ai regardé la bande-annonce et j'ai juste aimé la phrase où elle dit, elle lui dit, mais vous êtes jeune, il y a jeune, j'ai 31 ans. 31 ans, c'est 40 ans et faut pas se faire une raison, quoi.
31 ans, c'est 40 ans, faut se faire une raison. Wow.
Et là, faut commencer à se faire une raison. Et j'ai adoré ça parce que je me suis dit, c'est typique des stades dans la vie, en fait, où on voit toujours,
toujours
la dizaine d'au-dessus comme quelque chose de catastrophique, et puis on est obligé d'un peu de remettre l'eau dans son vin avec les années, et puis on repasse à la dizaine d'après. Et donc, j'ai vachement aimé comme phrase, quoi.
Finalement, on se trouve toujours un peu plus vieux que l'on est.
Ouais.
Et donc, pour finir, donc, mon coup de cœur que j'ai vu, on en avait parlé, si vous vous souvenez, à l'émission du 31 décembre, 1er janvier, à Saint-Sylvestre. Je sais plus si c'était 31 ou le 1er, bref. Et on en avait parlé justement parce qu'on avait passé les musiques de Dalida. Donc Dalida, le film de sa vie. C'est un film de Lisa Azuelos. Et c'est des noms un peu difficiles pour moi. Et qui est donc Dalida, est jouée par une actrice qui s'appelle Sveva Alviti. Elle est magnifique. Et donc ça raconte l'histoire de la vie de Dalida avec ses amours, ses idylles, sa relation avec Lucien Maurice, Jean Sobieski. L'impact sur sa vie quand Luigi Tenco s'est suicidé. Bref, donc un superbe hommage, je recommande si vous ne l'avez pas vu. Vraiment très très beau film.
Le film sur Dalida s'appelle Dalida.
Ça s'appelle Dalida,
d'accord.
Voilà. Mais elle est magnifique et vraiment, quand on le regarde, on a l'impression de regarder Dalida, elle le joue
c'est
vraiment.
Vrai.
Oui.
C'est un superbe film. Donc voilà. Et donc,
est-ce qu'il y a un acteur qui joue Dutronc?
Je ne me souviens plus.
Non, parce qu'il y a une très grande amitié entre Dutronc et Dalida, si je me souviens bien.
Non, j'ai pas souvenir qu'ils en parlent.
Non. Ok.
Non, j'ai pas souvenir. Il y a vraiment, par contre, il y a vraiment l'influence de son frère dans l'histoire de Dalida, hein, parce qu'il était toujours présent. Et puis donc il y avait donc Jean Sobieski qui était l'homme avec qui elle est restée quelques années, mais bon, c'était un peu. C'était pas vraiment une star, c'était il servait. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il l'aimait aussi, mais en tout cas, c'était une relation où finalement c'était elle la star et c'est elle qui donnait finalement un peu l'argent. Puis lui, c'était un peu un Bernard l'ermite. Mmh. Donc, et donc très intéressant. Voilà, je vous recommande. C'est un très très
à
beau
voir.
Film. Voilà. Et
super.
Donc,
je peux juste parler de 2-3 films.
Vas-y,
en fait,
oui.
Qui sont dedans, qui ont. Il y a Une femme est une femme de Godard, un vieux, forcément noir et blanc. Il faut aimer. Hein. J'ai re-regardais la bande-annonce avec mon partenaire qui était super énervé par rien que la bande-annonce. C'est pour dire parce que c'est un type, c'est filmé de façon, c'est à la Godard. Enfin, je veux dire à la Godard. Qu'est-ce que je simplifie il aurait les oreilles qui sifflent s'il m'entendait parler comme ça. Mais disons que c'est pas un montage narratif tel qu'on est habitué à les avoir aujourd'hui. Et donc c'est très intéressant. Donc ça, c'est quand même un grand classique pour ceux qui aiment bien le cinéma. C'est important. Tu parlais de portraits de femmes. Il y a Aurore aussi, qui est une femme qui a la cinquantaine, qui passe la cinquantaine en fait, qui est en train d'être ménopausée, qui apprend que sa fille qu'elle va être grand-mère, qui a des bouffées de chaleur tout au long du film, qui se dessape quand son ex lui dit qu'elle veut se divorcer. Il dit oh bah dis donc, elle dit non, t'inquiète pas, c'est pas toi, c'est les bouffées de chaleur. Enfin, ça a l'air d'être assez
virée aussi de son boulot.
Elle se fait virer de son boulot. C'est
elle se fait remplacer par une jeune,
elle
je crois.
Fait, voilà, donc il y a tout un truc super intéressant. Et comment elle s'appelle,
je ne sais pas.
Si, c'est la partenaire de Bakri. Enfin, je ne sais pas si c'est
Jaoui.
Ouais, Jaoui, voilà. Donc, d'avoir Agnès Jaoui d'un côté et Bakri de l'autre, je pense que ça va être. Les deux sont super.
Comment s'appelle ce film ?
Donc, ça s'appelle Aurore.
Ah, c'est Bakri Jaoui encore.
Bah, en tout cas, c'est Jaoui dedans. Je ne crois pas que Bakri soit dans ce film-là.
Bon, Bakri, il est dans l'autre, ouais.
Voilà. Et donc, il y a aussi un film dont je parlais brièvement tout à l'heure, que j'ai vu au film international. C'est un documentaire. Donc, il s'appelle en anglais Face Places, mais il s'appelle Visage, Village, en français.
Avec
Agnès Varda.
Agnès Varda et l'artiste, JR. JR.
Et donc, ça, c'est super. Il se balade en France. Donc, JR, c'est quelqu'un qui fait des gros portraits, il prend des photos, il fait des gros portraits des gens et il les met dans des endroits improbables, comme disent tous les Français.
Il les surimpose sur des façades.
Voilà, sur des façades.
Ah oui, il a pas fait c'est pas lui qui avait fait, il y a des espèces de, non, de, des deux yeux sur des silos à Paris.
Aussi, ouais, oui, probablement lui.
Il y a ça aussi. Il a caché la pyramide du Louvre aussi.
Ouais. Et donc il a fait des trucs. Il est vraiment. Il fait aussi des trucs qui sont assez. Il a aussi un site sur lequel tu peux aller et tu peux demander à ce qu'il t'imprime. Il soutient les initiatives, tu vois, de gens. Moi, je me suis toujours dit dans le South Auckland, il devrait faire ça, tu vois, de prendre des gens là-bas sur place et les mettre sur des murs là-bas. Et donc en fait, il fait pas mal de boulot comme ça. Et on les voit en fait se promener avec Agnès Varda, se promener. Oui, ils sont en van, ils font le tour de la France, ils s'arrêtent dans des villages, tout ça. Donc voilà, c'est un super film. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super. Et Varda, c'est plein de poésie, je trouve que quand on est ici, ça fait du bien d'avoir ce petit relent de poésie. On oublie un petit peu cette façon de voir les choses. Et donc voilà, je crois que c'est tout. J'ai parlé de trois films. Oui, ben voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, c'était des films. Ah oui, sinon le dernier, The Graduation, qui est.
Oui, j'ai vu ça aussi.
Bon.
Oui.
Alors ça, c'est un documentaire sur le concours de la FEMIS. Et c'est amusant parce que je suis en train de travailler avec une monteuse en ce moment qui a passé la FEMIS et justement qui m'a, le jour où on a parlé de la FEMIS, m'a parlé du concours. Comme quoi, c'est quelque chose d'assez
intense,
voire je sais pas si c'est traumatisant ou pas. J'imagine que ça l'est quand on passe pas. Et mais alors la bande-annonce, ça m'a fait rire. J'ai trouvé que c'était très, pas parisien, mais très français, prise de tête. Enfin bon, je sais pas si tout le film est comme ça, mais je suis curieuse. Du coup, je vais aller voir parce que j'ai vraiment envie de. Moi, c'est un truc que je me suis toujours dit, oh, j'aurais bien aimé le faire. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être aller le voir, peut-être que je vais me dire.
Quel film ça ?
Ça s'appelle The Graduation. Et donc, c'est un documentaire sur. Ils suivent tout le processus du concours pour rentrer à la FEMIS, qui est l'école de cinéma, de cinéma française, qui est une école publique. Sur concours, donc c'est assez marrant, c'est-à-dire que c'est vraiment typique, c'est très typique du système français, oui. Où tout le monde a sa chance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour. En revanche, il y a quand même un élitisme, une idée d'élitisme, voilà. Qui est avec justement le passage de ce concours qui se fait en trois. C'est une espèce de parcours du combattant. On ne peut pas le faire en sortant du bac, il faut avoir au moins un bac plus deux. Enfin bref.
C'est quoi les étapes du concours ?
Alors il y en a plus. Elle me disait il y en a plusieurs. D'abord, tu dois écrire un projet. Selon ce que tu veux faire, parce que tu peux choisir monteur, chef opérateur, oui. Réalisateur. Donc d'abord, tu fais un projet. Et ensuite, il y a deux autres. Il y a un entretien et je crois qu'il y a encore autre chose à faire. Encore
ça ressemble à l'entrée des Beaux-Arts.
Oui, bah oui, voilà. Mmh. Ouais. Et c'est très marrant parce qu'en fait, on se dit, c'est très français, quoi. Et justement, les discussions qu'ils ont sont très françaises aussi, quoi. Donc voilà.
Comment il s'appelle ce documentaire ?
The Graduation.
Graduation.
C'est assez marrant,
parce que
c'est toujours comme ça en France. On fait toujours. C'est les examens.
Oui.
Ouais. Ici, ils n'ont pas du tout cette même culture. À la limite, tu peux devenir un très très bon producteur ou un très très bon réalisateur en n'ayant aucun examen. Mais en tout cas, tout ce que tu auras, c'est l'expérience.
Ouais. Oui.
Et puis, ce sont des métiers. Il y a besoin d'une connaissance technique, c'est certain. Et je pense que, par exemple, elle me dit disais, elle étudiait le montage pendant 3 ans. Moi, c'est un métier que j'ai appris sur le tas. Donc, c'est assez bizarre de voir. Donc, certainement, elle a des références cinématographiques que j'ai pas, des connaissances de récits, etc. Mais ils sont formés pour être chef monteur, c'est-à-dire qu'il y a un peu le haut de la pyramide chez les monteurs. Et ils sortent de là et en fait c'est problématique. Elle me disait parce que on commence toujours par le bas dans le cinéma, on commence toujours par le bas, par ramener les cafés. Donc on commence assistant monteur et en fait ils savent pas être assistant monteur, quoi. Ils savent juste, on leur a appris à être en haut de la pyramide dès le départ, quoi. Et donc elle disait ça a même été problématique pour certains boulots. Elle ne disait pas qu'elle venait de là parce que certains étudiants arrivaient. Ils pensaient qu'ils étaient les rois du pétrole en disant non mon petit gars non tu
vas ramener les cafés
quoi, voilà. Donc voilà, c'est
Mais ça ne m'étonne pas,
ouais.
C'est ça ne m'étonne pas du tout.
Intéressant, ben ça me branche bien de le voir, ce documentaire. Donc tous les films dont vous avez parlé, ça nous branche.
Donc voilà, donc tu voulais nous faire écouter une musique, Virginie?
Oui, donc je disais juste, mais pour finir, juste pour parler d'Alida, et donc c'est une très belle scène dans ce film, justement sur la chanson qu'on va vous passer, qui est Pour ne pas vivre seul, et voilà, et donc très très beau moment dans le film, donc je recommande d'Alida, aller le voir, c'est vraiment un film magnifique.
Pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime un souvenir, une ombre, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps, et quand le printemps vivre seul, des filles aiment des filles et l'on voit des garçons épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales où tous ceux qui sont des amis et on les réunit quand viennent les soirs d'ennui. On vit pour son argent, ses rêves, ses palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi, je suis seul avec toi, tu es seul avec moi.
Je me suis complètement emmêlé les pinceaux. Vous avez raison. C'est pas Dalida qui était copine avec Dutronc. C'était Sapritch qui a même fait une pub télévisée avec Dutronc. Oui, je les mélange toutes les deux. Mmh. C'est-à-dire que ça remonte. Hein.
Oui, c'est clair. Oui, c'est des femmes dont on parlait à l'époque. Ouais.
Oui, voilà. Ouais.
Donc, si
c'est
jamais.
Terrible, et c'est terrible, quand elle se lançait sur la table.
Si jamais. c'est vrai que j'avais oublié ça.
C'est la classe, quand même.
Bah, c'est aussi des choses qu'on verrait plus aujourd'hui, quelque part. Non, je trouve que c'est assez. Ouais.
Bah, non, c'était pas assez. Ça serait pas assez classe.
Ah, une petite pensée pour Charlotte, si elle nous écoute depuis Perth, parce qu'elle, si elle nous a fait des imitations de Dalida, qui étaient.
C'est vrai.
Fantastique, notamment un 14 juillet. elle nous a fait un très, très, très beau concert. Voilà. Alors, l'autre festival qu'on a au mois de mars, c'est le Auckland Art Festival. Et donc, on va vous parler de plusieurs choses. La première chose, il y a ce qu'on appelle un playground, et ça se passe au Silo Park. Hein. Donc, le Silo Park, ça a été développé au moment de la Coupe de rugby. Et donc, maintenant, il y a encore pas mal
2011.
De... 2011, c'était, ouais.
Ouais,
ouais.
2011.
C'est vraiment
ouais.
déjà. Hein. Et donc, maintenant, cet espace est utilisé pour plusieurs... notamment pour plusieurs choses. Donc, par exemple, le cinéma en plein air, ça se passe au Silo Park. Là, en ce moment, c'est en train de se
oui,
terminer.
Oui, c'est tout l'été, oui.
Voilà. Et donc, pendant le Auckland Art Festival, on a organisé ce qui s'appelle un playground. Alors, le playground, c'est tout se passe autour du Silo Park. Il y a un food pavillon, un stand avec plein de stands de nourriture. Une House of Mirrors. Alors, donc, ça, c'est pour, je pensais, ceux qui sont de Paris se souviennent peut-être les nostalgiques du labyrinthe des glaces du jardin d'acclimatation à Paris quand on est enfant. C'est une espèce de labyrinthe dans lequel il y a des vitres. Il faut pouvoir avancer sans se cogner. Enfin, on se cogne toujours. Et donc, là, en fait, ils ont installé, c'est une installation extérieure qui est construite avec 40 tonnes d'acier, 15 tonnes de glace. Et donc, c'est une maison de miroir, une sorte de labyrinthe qui fait 400 mètres carrés. Et donc, c'est une espèce d'environnement.
C'est
ouais, c'est énorme. Et c'est donc c'est une espèce d'environnement dans lequel on se perd en fait, puisqu'il y a des miroirs, on se voit dedans. C'est donc c'est vraiment une expérience dans laquelle on. Ils disent attention, d'ailleurs, j'adore attention. Cette expérience peut être, vous pouvez vous sentir désorienté ou vous perdre. J'adore. Parce que... bien prévenir le truc.
Tu viens genre, ouais, non, on va juste regarder, on va faire un tour.
Voilà.
Pour 10 minutes.
Et ils parlent même des selfies. Genre. Je pense qu'ils ont raison parce que question selfie, ça va donner parce qu'on va pouvoir se voir sur plusieurs miroirs. À mon avis, ça doit être assez intéressant. Donc ça c'est sur au Silo Park. Autre chose, moi, qui m'intéresse grandement parce que je suis une fanade de musique expérimentale, c'est donc au Silo Park, c'est parce qu'il y a des silos, donc d'anciens silos, qui sont des espèces de grands cubes, hein, qui étaient gardés pour stocker, je crois que c'est le blé ou ce genre de choses. Mmh. Et il y a une acoustique qui est bien entendu assez particulière, hein, puisque c'est cylindrique et que ça monte très haut. Donc ils ont demandé à plusieurs groupes, qui sont des créateurs de sons, de faire des installations sonores, en fait, dans les silos. Et ça, à mon avis, ça va être génial. C'est gratuit, l'entrée est libre, sauf deux concerts, mais qui sont à 10 dollars chacun, donc ça reste abordable. Jonathan Crayford Concert, qui est le mardi 20 mars de 18 à 18h, et Voices New Zealand Chamber Core Concert le samedi 24 mars à 17h. Donc voilà, ça c'est le troisième pôle de ce fameux playground. Et le dernier ensuite, c'est ce qu'ils appellent la Music Arena. Donc il va y avoir une scène avec plusieurs concerts qui eux sont payants. Donc il y a pas mal de choses et pas mal de concerts, donc ça vous pouvez regarder sur le site de Auckland Art Festival. Mais il va y avoir Anushka Shankar, moi, que j'aime bien, et pour son album Land of Gold. Et alors, je vais faire quelque chose que j'aime pas faire en général, mais je le fais quand même, parce que je parle d'elle, mais en fait, c'est Anushka Shankar, bien entendu, c'est la fille de Ravi Shankar, et on devrait la passer, mais elle parle en anglais, elle chante en anglais, donc comme c'est une radio française, je me suis dit, on va éviter, et comme j'adore son père, et qui en plus, il a fait une musique avec Philip Glass, je me suis dit que, bon, à la place de Anushka Shankar, vous pouvez aller la voir et l'écouter. Puis nous, aujourd'hui, on va écouter son père, en fait, avec Philippe Glass. Et le titre...
Tu as choisi Offering.
Voilà, c'est un très, très beau morceau. On ne l'a peut-être pas l'écouté en entier parce qu'il est très long, mais c'est un très, très beau morceau.
C'est magnifique, hein.
Ouais, j'adore. C'est quelque chose que j'écoutais quand j'étais à Londres, justement, on parlait Londres. Et c'est, ouais, je trouve que c'est une musique.
Je savais
magnifique.
Pas que tu avais vécu à Londres.
Ouais, si, bah, c'est là que j'ai rencontré mon kiwi de Marie.
Mais comme moi.
Et voilà, mais c'est là qu'ils attrapent le.
Et c'est vrai, en général,
chair fraîche.
C'est, ben, oui, puis en fait, j'avais eu cette conversation où je disais. En général, quand ils rencontrent quelqu'un en Europe, dans leur tête, ils savent toujours qu'ils vont rentrer en Nouvelle-Zélande.
Mmh. On n'est pas au courant, nous, parfois.
Non,
contre,
mais
hein.
pas au courant, mais eux, ils le savent. Ouais, c'est-à-dire ouais. qu'ils vont rentrer.
Moi,
donc
ils portaient un pounamou, et puis je lui ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, ah, il me dit, bah, ça, c'est un signe qui veut dire qu'on va rentrer chez soi un jour. J'ai
t'as
dit,
rien compris?
Ah, bah non, mais moi, il m'a fallu. Oui, j'ai pas compris, non. J'ai été très, très, très lente. Très lente. Beaucoup trop lente. Donc alors, pour le Auckland Art Festival, alors une des choses du Auckland Art Festival, une des merveilles qu'il nous présente, c'est l'exposition Manifesto qui est en ce moment, qui vient de commencer, hein, tout juste en
tout
fait.
Tout juste.
À la Auckland Art Gallery, et ça vient tout juste de commencer, et Anne-Sophie s'est jetée dessus, bien entendu.
Voilà. Alors, l'exposition Manifesto par l'artiste Julian Rosfeld, allemand, il a la cinquantaine, je crois, vient d'ouvrir le 24 février et est en exposition jusqu'au 10 juin. Et donc, c'est une exposition payante, je vous le dis, si ça
c'est
vous intéresse. Alors, c'est $15 ou $12.50 pour les étudiants. Et puis ils ont fait des early birds qui ont été, bah, c'est terminé maintenant, mais les semaines avant l'ouverture de l'expo, ils faisaient des early birds à $12.50. Mmh. Mais alors, c'est $15 très bien dépensé, je vous le recommande. J'y suis allée sans avoir lu quoi que ce soit, parce que c'est quand même un travail vidéographique. Mmh. Vidéographique qui a été fait en 2015, donc c'est pas fait récemment, donc il y a déjà eu beaucoup d'écrits et de discussions autour de ce travail, donc j'ai essayé de pas trop lire ou trop me préparer pour vraiment me sentir immersée. À l'entrée, on vous donne une page A4 qui décrit les choses. Je l'ai tout de suite mis dans ma poche aussi, j'ai vraiment voulu m'immerser.
Immergé, je crois.
Même je passe. Ok. Et donc, je suis rentrée dans la salle. Alors, le fait est qu'évidemment, comme j'ai pas lu le papier, j'ai pris le circuit à l'envers. Forcément. Mais c'est pas trop grave. C'est des choses qui arrivent. C'est pas trop grave au bout du compte. Donc, je vous explique l'espace. Alors, c'est 13 panneaux vidéographiques, donc 13 vidéos qui sont présentées sur différents écrans à la fois. Ça s'appelle une vidéo multi-channel parce que ce sont donc différentes projections qui se passent en même temps. Donc pas un seul film qui passe avec différentes sections. Donc les images passent en même temps, donc c'est très très bien fait, excessivement bien fait, avec des panneaux très fins qui sont suspendus et le son, et donc il y a un petit banc face à chaque écran, et le son vous arrive complètement au-dessus quand vous êtes assis sur ce banc. Mais malgré tout, il y a quand même des distorsions sonores. On entend un peu ce qui se passe dans les autres écrans. Donc, à l'entrée, c'est un peu prenant, c'est un peu suffocant. On est dans le noir, on a toutes ces vidéos qui se passent en même temps. Et à certains moments, les vidéos sont synchronisées. Et on a donc Cate Blanchett. J'ai pas encore mentionné quelle était l'actrice principale, mais on a Cate Blanchett en close-up de son visage. En gros plan. Merci. Qui fait un petit speech de quelques phrases et tout ça en même temps. Et alors ça, c'est oppressant, mais en même temps magnifique. Mmh. Donc, à voir absolument, et ça revient régulièrement. Alors chaque petite scène est faite sous le même format. On démarre avec, je crois que ça s'appelle un travelling, où la caméra bouge lentement et présente un peu l'espace autour de la scène où ça se passe, avec rien, pas, juste des sons. Ensuite, on a la voix de Cate Blanchett qui commence à discuter d'art, de manifesto et de théorie d'art. Et ensuite, la scène démarre où Cate Blanchett incorpore un personnage. À chaque fois, elle représente un personnage différent par rapport à la scénette. Et à un moment donné, donc elle s'arrête, on a un gros plan de son visage où là elle fait un gros statement, c'est très artistique, c'est très fort, c'est très très présent, et ensuite la scénette se termine. Donc toutes les vidéos,
c'est une prise de position, c'est quoi exactement ce qu'elle fait à la fin de chaque
au milieu,
d'accord.
À peu près au milieu, ouais. Ce gros plan, ouais. Alors j'ai mis des photos sur notre page Facebook, donc comme ça vous pouvez voir des photos de ces gros plans. Ouais. Les écrans sont positionnés aussi d'une façon où il y a des moments où on les voit dans un angle presque aligné les uns derrière les autres. L'espace est très bien fait, très bien conçu. J'ai vraiment aimé. Il y a de l'espace et en même temps on se sent immersé. Mmh. On se sent en immersion.
Immergé, je crois aussi. Ouais.
J'ai le mot anglais en tête, ouais. Je n'arrive pas à trouver le mot français, c'est terrible. Alors donc, Kate Blanchett, c'est l'actrice principale et elle se change en plusieurs personnages. Donc elle est travailleuse dans un centre d'incinération d'ordures. Elle est scientifique. Elle est une CEO à une partie très riche dans une maison magnifique. Elle fait des puppets, des marionnettes. J'ai beaucoup aimé
ce personnage-là.
Oui. À un moment, elle parle à sa marionnette et en fond, derrière, on a toutes les autres marionnettes qui sont alignées comme une audience. J'ai trouvé ce moment très émouvant. Elle est aussi une chorégraphe diva, magnifique, avec des costumes fabuleux. Elle parle aussi à des funérailles. Cette scénette est sur le Dada, et donc on fête cette année les 100 ans du Dada et de l'écriture de manifesto de Dada. Donc c'est aussi très...
Donc alors attends, parce qu'en fait chaque personnage parle d'un mouvement artistique.
Alors je vais vous expliquer après, finis. Elle joue aussi une punk tatouée, genre groupie dans un groupe de rock de musique, punk. Elle joue une reporter, newsreader. Un broker, ouais, c'est pareil en français, hein. Une mère de famille conservative, religieuse, voilà. Et elle joue une professeure
traditionnelle,
traditionnelle. Elle joue une instite. Dans une école, j'ai beaucoup aimé celui-là aussi, et un homme homeless,
un SDF.
SDF, voilà. Et donc chaque scénette s'est inspirée d'un mouvement et d'un manifesto historique. Alors je vous recommande, si vous voulez lire les manifestos, je vous recommande un livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis quelques temps, qui est vraiment fantastique. Ça s'appelle 100 Artist Manifestos from the Futurist to the Stuckist. Et ça a été fait par Alex Tonchev. C'est aux éditions Pingouin, c'est formidable. Je le passe à Virginie, qui veut absolument le voir. Et donc, ça regroupe pas mal de manifestos. Et donc, chaque scénette de manifesto, c'est soit sur le futurisme, soit sur le dadaïsme, soit sur pop art, soit sur celui sur l'architecture est formidable, sur situationnisme, l'art conceptuel et minimaliste, on prend des photos, on vous met le livre sur Facebook. Donc vraiment, chaque scénette vous donne une idée. Alors, ce qui a été pris des manifestos, ça a été principalement les arguments les plus forts. Alors, comme ça vient de manifestos, c'est très fort. J'ai retenu par exemple une phrase où on a besoin de vérité dans l'art, on n'a pas besoin de sincérité. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais ça vous fait réfléchir. C'est aussi vibrant, c'est stimulant, c'est très créatif. Je trouve l'idée formidable. Alors j'ai pas encore lu de critique, mais vraiment ça m'a beaucoup plu. L'installation est fantastique. Je pense pas que le ressenti serait le même si on devait voir le film où toutes les scénettes ont été montées les unes après les autres. Quoi. Juste un petit mot. Donc j'ai acheté le livre aussi. Il reste 100. J'ai parlé à la personne au bookshop de la galerie.
À la librairie.
Donc. À la librairie, voilà, pardon. Merci les filles. Il reste 100 livres. Manifesto de cette exposition, et la galerie d'Auckland les a tous réquisitionnés. Donc si vous voulez le livre,
il faut l'acheter
à la galerie, et maintenant, et pressez-vous, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. D'accord. Je me suis fait avoir avec l'exposition de Bodhi Leadbeer, donc maintenant je me précipite, je demande toujours combien ils en ont et s'il n'y en a pas beaucoup.
J'ai alors, un peu la même histoire avec les deux, en Angleterre, à Londres, en 1996, il y a une exposition qui s'appelait Sensation,
oui,
qui était hallucinante, qui était vraiment avec tous les artistes qui étaient au top à cette époque-là. Et c'était vraiment une exposition culte, en fait. Et à l'époque, j'étais fauchée. J'ai pas acheté le catalogue. Et je m'en suis toujours mordu les doigts. Jusqu'à ce que Brock, pour mon 40e anniversaire, réussisse à me le dégoter et à le ressortir. Et pour moi, c'était...
Oh,
j'en ai chialé. Quand j'ai ouvert le paquet, j'en ai pleuré. Mais j'ai pour ça... Tout ça pour dire que quand il y a un catalogue comme ça, effectivement,
ben voilà,
faut pas hésiter.
Voilà. Alors le catalogue est très bien fait. Enfin, c'est pas un catalogue, c'est un livre d'art en lui-même. Donc avec des images, des très belles images tirées des films, et puis des passages. Des manifestos parlés par Cate Blanchett, des textes. Okay. Donc, si vous êtes intéressé et si vous collectionnez comme moi les livres d'art, celui-là, il faut se jeter dessus parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Très bien. Oui, c'est fantastique comme aussi, je pense que c'est une sorte d'histoire, c'est l'histoire de l'art aussi, présentée de façon créative et artistique aussi. Donc, c'est quand même.
Oui, puis.
C'est une sorte de mise en abîme, en fait, du truc. C'est pas mal. Ouais.
Et c'est intéressant parce que j'ai trouvé certains manifestos très à jour.
Oui. Toujours actuel, d'actualité.
D'actualité. Okay. Oui, très à jour. Merci, Blandine.
D'actualité. Vous comprenez,
mais c'est ça. J'en ai trouvé, vraiment d'actualité. Entre autres, celui sur l'art conceptuel est très bien fait. Donc vraiment, faut y passer le temps. Chaque petite séquence dure à peu près 5 minutes, je dirais. Donc c'est pas il y en a certaines que j'ai passées parce que malheureusement j'étais un peu prise par le temps, mais faut vraiment les faire une par une. Alors il y a un sens de lecture a priori, mais bon, moi je l'ai pas fait, j'ai pas suivi le sens,
et ça
fonctionne très bien. Ouais. Alors en fait, ce sont 12 scénettes filmées avec Cate Blanchett et une vidéo où en fait c'est sa voix off avec juste une image fixe de quelque chose qui est en train de prendre feu comme un filament d'une dynamite. D'accord. Ou quelque chose comme ça. Mmh. Et comme une étincelle, c'est un peu flou, et puis où là elle fait une présentation en fait de qu'est-ce que c'est un manifesto, qu'est-ce que c'est un prologue en fait.
Okay. Bon, bah très bien, écoutez, alors voilà une première chose à aller voir au Festival d'Auckland. Donc ce festival artistique, c'est pas que des expositions, c'est d'ailleurs principalement des spectacles vivants, et donc il y a du théâtre. Je vous en cite quelques-uns parce qu'il y en a plus que ça, hein, mais il y a Bless the Child, qui est écrit par le dramaturge One Kuka et mis en scène par Myria George, et donc c'est interprété par la compagnie théâtrale Tawata Production. Et donc l'histoire, je vous la raconte rapidement. Après avoir retrouvé un enfant mort, un avocat doit défendre la mère qui est plus ou moins accusée, mais peu à peu l'ensemble de la whanau, donc la famille étendue, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le terme maori, doit prendre ses responsabilités. Donc tout ça, c'est tout un travail sur la responsabilité de la collectivité pour la survie des enfants en fait dans des milieux qui sont parfois difficiles pour eux. Une autre pièce de théâtre, c'est The Far Side of the Moon. C'est une pièce qui est écrite et mise en scène par Robert Lepage, donc qui est un dramaturge et metteur en scène québécois. Musique de Laurie Anderson, c'est elle qui a fait la musique des Ailes du Désir. Elle a participé à plein de choses. Elle est très très connue dans le monde de la musique expérimentale. Et donc elle a fait justement une pièce de musique. Elle est artiste résidente de la NASA. Et donc elle a fait tout un travail justement autour du cosmos, etc. Et donc la pièce, ça parle du deuil de deux frères québécois, mais ça parle du cosmos, de la réalité, etc. Enfin bon, ça a l'air d'être assez bien. Et ça sera le 22, 23, 24 et 25 mars à Aotea Center. un autre qui a l'air vraiment bien, qui s'appelle Jack Charles the Fifth, The Crown. C'est Uncle Jack Charles. Et en fait, lui, c'est une légende en Australie. C'est un acteur, un vieil acteur. Il est aborigène, activiste. Et il interprète, donc c'est un one-man show sur sa propre vie, sur scène, derrière l'écran, mais aussi derrière les barreaux, puisqu'il a fait de la prison. Et donc, c'est une pièce qui soulève, entre autres, l'histoire des injustices commises contre les aborigènes. Mais on regarde la photo du... Quand vous regardez la photo de l'acteur, je vais vous montrer, elle est incroyable. Quoi. Rien que ça, on comprend que ça va être du sérieux, ça va être du profond et du touchant. Alors, ils ont une section qui s'appelle En famille, c'est plutôt des trucs de cirque. Il y en a un qui a l'air vraiment bien, qui s'appelle Ao Lang Pho. Très mal prononcé, parce que je sais que le vietnamien a des niveaux en fait de prononciation que je ne peux même pas approcher. C'est le nouveau cirque du Vietnam, donc qui décrit donc avec humour et imagination la rapide urbanisation des villages ruraux. Et donc pareil, ils ont fait des super bonnes photos là-dedans, on a envie d'aller tout voir quoi. Ça a l'air d'être fantastique. Un autre spectacle, et j'en parle d'autant plus que Michael Parmenter, c'est un chorégraphe, très grand chorégraphe néo-zélandais avec une histoire incroyable qu'on a eu plusieurs fois ici parce que c'est un grand francophile, un homme fantastique. Oui, d'ailleurs, je crois que l'émission où tu étais venue la première fois, tu étais avec lui.
Oui, ouais. J'étais invitée
c'est
aussi.
C'est un mec fantastique. Hein.
Oui, oui.
Et donc lui, il a fait... alors ça, pareil, c'est... Je vais voir. Il y a Orpheus et c'est sur la musique de Rameau et de Charpentier. Oh, j'adore. Et c'est la New Zealand Dance Company qui fait ça. Et donc, il parle du fameux mythe d'Orphée qui est quand même un. Donc, ça parle de musique.
Ça passe quand ça?
Et alors, lui, il est au Civic le 9, 10 et 11 mars. Donc, c'est très, très, très bientôt. Il faut se précipiter pour aller le voir. Il y a aussi The Piano, un ballet qui est fait à partir de la musique du film The Piano. Donc, il y a des merveilles de folie. Et autre chose, j'en ai déjà parlé, donc je le recite juste rapidement. Max Richter, donc, est un compositeur allemand. Et donc, nous, on va aller le voir, ce truc-là, c'est Sleep. Et donc, c'est une pièce de 8h15.
Non.
On y va le soir avec son petit sac de couchage. On dépense quand même 189 $ au passage, hein, je le dis quand même pour la... Oh. Et donc, c'est une musique qui est faite pour être écoutée
en
somnolant, en dormant, en écoutant. Et donc, on y va, ça commence à 11h, je crois que c'est 11h du soir, et on y passe toute la nuit. Voilà. Et donc ça, quand j'ai su que ça allait arriver, inutile de vous dire, je me suis jetée dessus. Pour aller le voir, et ça, je suis très 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 pressée de vivre cette expérience là.
C'est joué en direct ou c'est,
oui, c'est en direct,
enregistré?
Ouais. Non, c'est joué en direct,
mais c'est une sacrée performance pour les musiciens. Mais 30, oui,
oui, oui, mais non, il y a 31 pièces ininterrompues. Ah, oui, c'est donc 8 heures de concert et. Il y a de la musique électronique, il y a donc j'imagine qu'ils doivent se
le relais.
Il me semble
c'est
que
le matin, ça c'est la musique.
Ouais. Il me semble que c'est principalement électronique, mais il est aussi je crois que c'est principalement électronique. Je voudrais pas dire de bêtises. Je vous raconterai ça après parce qu'à mon avis, j'aurais
il faudra que tu racontes
après parce que donc voilà, ça c'est au Queen's Wharf Shed 10 et ça sera le 16 mars, il y a qu'une seule nuit. Il fait aussi une pièce qui s'appelle Vivaldi Recomposed Three Worlds. Et ça sera le 18 au ISB Theater à OTA Center. Donc voilà, il y a de quoi, s'en mettre plein les yeux, plein les oreilles, ça va être hallucinant. Il y a du jazz aussi, enfin bref, n'hésitez pas à aller sur le site Auckland Art Festival. Et bon, encore une fois, je disais, je crois que ça va être un mois très intéressant. On a donc il y a toi tu as vu aussi, on parle toujours d'art, il y a un super article dans Métro, c'est ça?
J'ai chopé Métro aujourd'hui, il vient de sortir, hein, c'est le Métro de mars-avril, donc vous avez le temps. Forcément moi quand je vois un truc spécial art, je le chope. Je suis pas habituée à acheter Métro, mais du coup là celui-là je l'ai pris et en le feuilletant avant de venir à l'émission. Je suis tombée sur un article qui s'appelle Keeping It Real d'après qui a été écrit par Francis Walsh et je trouvais ça vachement intéressant. C'est sur Frances Hodgkins, donc artiste femme néo-zélandaise début du 19e enfin oui, début 1900 plutôt, pas
19e, début 20e.
Voilà.
Puisqu'elle est venue vivre en
19, voilà, je parle de 1900 et quelques, oui, voilà. Oui, elle a, alors voilà, elle a été, on en parlera parce qu'elle a été prof en France aussi, elle a vécu en Angleterre, et puis elle est revenue en Nouvelle-Zélande plus âgée, et la compétition face à des hommes jeunes dans son art, c'est, elle trouvait ça difficile, donc c'est aussi intéressant.
Il y a aussi que c'était pas trop moderniste et qui était bien trop avancé pour ce qui était l'art pictural en Nouvelle-Zélande à l'époque.
Mais oui, qui refusait de se faire prendre en photo parce que ça ne l'aidait pas dans sa carrière de voir une grand-mère peintre moderniste, quoi. Donc elle va avoir une rétrospective à la Galerie d'Auckland qui démarra en avril
2019, tu disais.
Non 2019, ouais. Voilà. Donc on en reparlera. Mais cet article est intéressant parce que il s'agit d'un collectionneur. Qui s'appelle, j'ai oublié son nom, je vais retrouver dans l'article, et Andy Boston, voilà. Et il est tombé sur un petit lot de dessins, de gouache, une huile pas finie, attribuée à Frances Hodgkins. Alors, il y a un problème d'authenticité. D'abord.
Parce qu'elle avait énormément d'étudiants aussi. Donc,
voilà. Donc il y a un problème d'authenticité. Ceci étant, ils sont signés Frances Hodgkins et trois des travaux ont été reconnus étant sa signature. Les autres un petit peu moins, mais bon, ça ressemble à sa signature. Le problème, c'est que les gens, les spécialistes, alors je ne suis pas spécialiste, hein, mais les spécialistes du milieu, ont des problèmes à reconnaître que c'est d'elle. D'abord parce qu'ils trouvent que ce n'est pas bon. C'est pas de son niveau. Et alors il y a toute la question, et donc il y a la question où les gens disent bah peut-être que c'était pas fait pour être vu, et donc c'est pour ça, ça a été découvert, alors ils ont été découverts dans un grenier dans une maison en Angleterre. Peut-être qu'ils avaient été laissés là parce que c'était pas bon, ou que c'était juste des études, ou que ça a été fait par ses étudiants, on ne sait pas. Mais je trouve ça intéressant que l'on discute l'authenticité parce qu'on trouve pas que c'est de ses meilleurs travaux.
Bon, oui.
Et je trouve ça intéressant en tant qu'artiste parce qu'il y a toujours la question où on a tous les artistes ont tous des piles de peintures, de dessins.
Tu fais quoi toi dans ton travail?
Ah ben voilà.
Tu jettes ou pas?
Et moi, j'ai toujours eu à m'expliquer pourquoi je faisais régulièrement des feux.
Des autodafés.
Voilà, parce que je brûle. Ouais. Je brûle ce que j'estime pas bon, et je le dis rarement parce que ça m'est arrivé de le faire et d'avoir des amis qui viennent et qui se servent dans le tas en disant non, ça tu brûles pas, ça te brûle pas, ouais, et c'est difficile, ouais, parce que moi je considère que c'est pas bon et que ça n'a pas à être vu ou à être gardé.
Oui, et puis à la limite c'est ça devrait pas être un choix de quelqu'un d'autre.
Oui, oui, voilà.
Parce qu'en fait c'est une partie de toi, c'est pas aux autres de choisir. C'est non, mais c'est
et puis
bon
si je considère que ça n'a pas lieu d'être ou ça n'a pas lieu de devenir quelque chose plus tard. Ça en reste là, j'ai le droit de détruire.
C'est plus un choix personnel.
Et c'est peut-être aussi pas tant une question de qualité que de cohérence aussi avec ce que tu veux faire.
Les deux,
la question doit se poser. On n'a pas beaucoup de temps, la question doit se poser notamment parce que si quelqu'un te dit que c'est bien, effectivement, on en reparlera.
C'est pour ça, Blandine, que je te disais, cet article est intéressant parce qu'il soulève des questions très intéressantes au bout du compte.
Bon, alors on va peut-être avoir 2 secondes de Barbara pour se dire au revoir.
2 secondes de Barbara. Vous avez choisi, comment on le dit, Göttingen?
Oui, Göttingen, oui.
Voilà.
Bon, à très bientôt la semaine prochaine. Ciao Virginie.
Bonne semaine.
Alors, je dirai mes enfants, ils ne sont plus là, mais voilà.
Merci Blandine.
Merci Anne-Sophie.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, ciao.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne.